La gastro-entérologue et chercheuse Sabine Azan a fait des découvertes extraordinaires ces dernières années sur le lien entre des affections comme l'Alzheimer, l'autisme ou le Covid et l'état de la flore intestinale, le microbiote. Elle a mis au point des thérapies personnalisées pour augmenter les bonnes bactéries, les fameuses bifidobactéries, grâce à des doses de vitamine C et D. Combinant celle-ci à du zinc pour freiner la propagation du virus, elle a guéri des milliers de personnes du Covid, même des cas graves, et n'a perdu personne. Elle découvre aussi que l'ivermectine, molécule qui se trouve être le produit d'une bactérie qui s'appelle Streptomyces, fait partie de la même classe que la bifidobactérie et a donc également un effet positif sur le déroulement du Covid. Elle parle aussi des difficultés rencontrées pour publier ses recherches et pointe du doigt des intérêts monétaires comme cause de cette censure. Ne ratez pas son anecdote sur Twitter en milieu d'entretien. Merci à Pierre de Resilient TV, grâce auquel cet entretien existe et qu'il nous permet de reproduire sur nos bonnes ondes. Retrouvez la page de ce podcast et toutes les infos supplémentaires qu'elle contient en cherchant sur radiolibre.ch le numéro 15 971. Je vous souhaite une bonne écoute.
Très bien. Alors, docteur Sabine Azan, bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous me corrigez si je dis une bêtise. Vous êtes gastro-entérologue, chef d'entreprise et chercheuse spécialiste du microbiome. Vous avez publié des dizaines d'articles sur le sujet du microbiome et un livre, en tout cas, de vulgarisation, malheureusement pas traduit en français parce que la traduction du titre aurait été intéressante. Let's talk shit avec le docteur Thomas Borody. Et nous vous avons invité pour vous entendre nous parler du microbiome, d'une part, et de ses potentialités et aussi de ce que vous avez pu en exploiter et dans le cadre du Covid. Ça, c'est un autre sujet qui est très intéressant aussi. Alors, j'aurais une première question qui peut-être prendre toute la soirée si on commence à en parler. Comment est-ce que vous définiriez le microbiome ?
Ben, le microbiome, c'est vraiment toutes les bactéries, les fougères, les virus qui sont autour de nous, qui sont sur notre peau, qui sont dans notre nez, qui sont dans nos intestins. Alors moi, ma direction et ce que je veux voir vraiment, c'est les bactéries qui sont dans les intestins. Alors c'est ça. Le microbiome, c'est tout ce qui est viral, bactérial, bactéries. Je vais probablement faire des mots franglais et anglais-français parce que je parle pas tellement français. Mais je suis française d'originaire, mais ça fait longtemps que je parle plus. Et puis en plus, j'écris tous mes manuscrits en anglais. Alors, je pense que je vais d'ailleurs me forcer à traduire le livre. Let's talk shit.
Oui, mais le titre, ce sera intéressant.
Les Français, on est habitué à dire la merde. Hein.
C'est oui.
Le microbiome, en fait, c'est la merde, quoi. C'est ce qu'on voit dans notre. C'est numéro 2 quand on va aux toilettes. Alors. C'est ça, c'est l'accumulation de bactéries, de virus, de fougères qui sont tous dans ce spécimen qu'on voit dans les toilettes finalement. C'est ça ce que j'étudie. J'étudie c'est quoi la composition d'une personne qui est normale, qu'on dit normale, qui est saine, versus une personne qui n'est pas saine, qui prend des antibiotiques ou qui prend des médicaments. Ou une vieille personne, ou une personne qui est assez grosse, ou une personne qui est diabétique. Alors, c'est quoi exactement la composition de leur microbiome, n'est-ce pas? Est-ce qu'une personne qui a le Parkinson, elle a un différent microbiome qu'une personne qui a Alzheimer, ou qui a l'autisme, ou qui est obèse, ou qui mange des légumes seulement, ou qui mange des viandes seulement? Donc, c'est ça exactement, c'est ce que j'étudie, c'est vraiment un clinical trial, comme on dit.
Et c'est clinique?
Oui, c'est clinique. C'est l'étude du microbiome clinique mondial. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le microbiome d'une personne qui habite en Chine versus la personne qui habite en Amérique, qui est chinoise originaire. Qu'est-ce qui a changé? Comme moi, par exemple, bon, je suis née au Maroc. Mon microbiome, je suis sûre qu'il a dû changer après avoir déménagé à Montréal et après avoir déménagé à Miami et Miami, Californie. Il y a beaucoup de changements et il y a une adaptation en même temps qui se fait quand on déménage d'un pays qui est assez diversifié comme le Maroc, où on ne donne pas tellement de pesticides, ils sont pas encore au niveau pesticides, etc. Donc, il y a quand même assez de diversité dans les pays d'Afrique. Versus les pays du Canada, le pays du Canada ou le pays de l'Amérique. C'est ça. Vraiment étudier la composition.
Bon, dans ce que vous avez évoqué dans d'autres interviews, parce que j'ai pris le temps quand même d'en écouter quelques-uns, vous dites souvent que le point de départ de votre odyssée dans le microbiome, en tout cas un point de départ, c'est cette bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile et la technique qui permet de la traiter, qui est, alors en français, j'avais cherché, la transplantation du microbiote fécal, que vous appelez plus joliment reflorisation.
L'organisation, c'est ça.
Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce point de départ-là, sur le clostridium et la transplantation?
Bon, le Clostridium, c'est. Il y avait 30 ans, on n'avait pas tellement de cas de Clostridium difficile. C'est d'ailleurs le nom difficile, c'est parce que c'est une bactérie, un Clostridium qui est difficile à traiter. C'est un Clostridium qui donne de la diarrhée aux gens. Et dans le temps, on ne voyait pas tellement. Il y a 30 ans, on ne voyait pas tellement de Clostridium difficile. Maintenant, on voit plus, surtout, pas maintenant parce qu'on fait beaucoup de transplantations d'aisselle avec ça, mais probablement il y a 10 ans, on voyait un petit peu plus de cas. Et ce qu'on a découvert dans ces cas, c'est que si on donne des antibiotiques comme le vancomycine, tout ce que ça fait, bon, ça tue la bactérie, mais en même temps, ça tue toutes les autres bactéries. Donc, la personne, elle est laissée, on la laisse avec un intestin qui est assez nu de bactéries. Donc, ce qui fait que c'est difficile parce qu'une fois qu'on a dénudé toutes ces bactéries, quoi, il y a des virus qui rentrent. Et maintenant, on n'a plus de système d'immunité. Notre immunité, c'est vraiment dans les intestins. The gut is your immunity. Les intestins sont notre immunité, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on change le milieu, la composition des microbes qui existaient et qu'on les a tués tous, on laisse un milieu assez vide qui commence à accepter plusieurs virus et fougères, parce que c'est là que les fougères et les virus rentrent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a découvert dans les années avec les études du microbiome? Et en fait, c'était vraiment mes études parce que qui ont découvert ça parce que ce qui se passe, c'est qu'on continue à donner des antibiotiques après antibiotiques, n'est-ce pas? On a donné un antibiotique, ça ne marchait pas, le deuxième antibiotique, troisième antibiotique. Puis moi, j'étais dans les clinical trials. Donc, les gens venaient chez moi pour rentrer dans les clinical trials. Donc, un nouveau antibiotique, un nouveau médicament, monoclonal antibody qu'ils appellent un anticorps monoclonal. Donc, quand ça ne marchait pas, je mettais les personnes vers une transplantation d'aisselle. Et j'utilisais surtout leurs parents, leurs enfants comme donation, n'est-ce pas? Parce que bon, la transplantation des selles, c'est exactement comme le mot le dit, pour prendre les selles, on les extracte pas, les personnes vont aux toilettes et nous donnent un bol de selles et on stérilise au mieux qu'on peut ces selles et on extrait comme les bactéries et c'est les bactéries que les bonnes bactéries qu'on rentre dans le côlon de la personne qui a la maladie de C. diff. Donc, quand on a commencé à faire ces transplantations, c'est évident que le premier cas que moi j'ai fait, il y a des années, c'était un médecin qui allait mourir. Il avait la maladie de C. diff et il allait mourir. Alors moi, j'ai dit, bon, ben, je vais faire la transplantation. J'ai utilisé sa femme qui a donné des selles. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est que en 24 heures, il se sentait mieux. En 48 heures, encore mieux. Et une semaine plus tard, un mois plus tard, tout ce qu'il avait dans le côlon qui était ulcère, inflammation, avait disparu. Alors, c'était vraiment comme voir un miracle, n'est-ce pas? Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça a marché? Parce que pour moi, bon, mettre des selles, c'est pas vraiment le métier le plus attirant. Et personne ne veut jouer avec des selles, c'est évident. Et surtout pas moi, parce que ma mère, à chaque fois qu'elle entend ça, elle est dégoûtée. Comme d'habitude, c'est évident, n'est-ce pas? Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'on a changé dans le microbiome pour arriver que l'inflammation a disparu, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à voir le microbiome. Et c'est là que je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 7-10 ans, il y avait une compagnie qui s'appelait Ubiome. Et il y avait d'autres compagnies qui faisaient le test des selles. Et j'envoyais mes tests des selles, mais il y avait rien. Je comprenais pas ce qu'on voyait. Le test n'était pas standardisé. Il y avait pas de standard, de standard. Il n'y avait pas de standard, comment dire en français?
Standardisation.
Standardisation, c'est ça. Alors, il n'y avait pas de contrôle. Les contrôles, bon, c'était les propriétaires de la compagnie. Il n'y avait pas de contrôle finalement. Alors, moi, j'ai dit, bon, ben, il semble qu'il y a une bonne formule, il y a une bonne façon de voir le microbiome. Mais le microbiome, il est trop dans les mains des gens qui veulent faire un produit, quoi, un business de ça. Alors, j'ai dit, bon, il faut ramener la science. Alors, comment je vais ramener la science? Je vais faire des clinical trials sur le microbiome. Et je vais faire un labo, je vais commencer un labo qui regarde spécifiquement le microbiome, mais en m'assurant que si je m'analyse mes selles, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est toujours mon empreinte microbiome que j'avais au début. Donc, j'ai pas changé. Si je change pas ma diète, si je prends pas de médicaments, je devrais avoir la même empreinte de mon microbiome. Et c'est ça ce qu'on a découvert. Alors, quand j'ai embauché pour faire ça le docteur qui travaillait pour une compagnie qui a fait le BRCA gene pour le cancer du sein. Alors, je lui ai dit, docteur Papuzzi, je veux que vous me créez et je vais vous donner les patients, mais je veux vraiment je veux que le test soit valide, vérifié et qu'on puisse le reproduire, n'est-ce pas? Alors, et que on puisse le reproduire non seulement lui, mais moi, mais ma labo, ma technicienne de labo. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il m'a créé un test. Et puis, on a commencé à voir les patients avec la maladie de Crohn. Les gens venaient pour me voir, surtout pour faire la transplantation des selles. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à découvrir qu'il y avait d'autres choses avec les selles. Et c'est évident que quand nous, en tant que médecins dans le domaine de la recherche, on est très vus. Les gens font attention à nous, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on est dans le domaine et puis on voit ce que les gens ne voient pas avant qu'ils vont voir dans 100 ans peut-être. Alors, ben c'est ça la recherche, n'est-ce pas? La recherche, c'est le début et après quelqu'un reproduit et après ça devient la norme, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que chaque gastro avait vu d'autres choses. Dr. Colleen Kelly à Brown University, elle avait vu des patients qui avaient le alopecia areata. Et elle a fait la transplantation des selles pour eux ils avaient la maladie de C. diff. Et puis, elle a découvert que la perte des cheveux a regrandi. Alors, on a vu deux cas où les patients n'avaient pas de cheveux. Et après ça, un mois plus tard, leurs cheveux grandissent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait une transplantation des selles? Et qu'est-ce qu'il y avait dans les selles? Bien sûr, il y a d'autres hôpitaux, il y a d'autres centres qui ont essayé de reproduire cette recherche de deux patients. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment voir la bactérie dans tous ces patients d'abord. Il faut le diagnostic avant la thérapie. Mais on est tellement pressé en Amérique et en Europe et partout à vouloir pousser le traitement, qu'on ne fait pas les choses systématiques. On ne fait pas la recherche, le diagnostic d'abord, puis après le traitement. On va directement au traitement, puis on pense que bon, on va mettre des selles dans un patient, puis ça va guérir. Mais non, ça ne va pas guérir. Il faut comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché.
Donc, votre approche, c'est en même temps de développer des outils d'analyse et de représentation du microbiome dans les selles, qui permettent de faire des photos avant-après qui soient fiables, parce qu'il y a une standardisation, et puis en même temps de faire les expériences cliniques sur qu'est-ce qui peut être traité et quelle est la limite de ce qui peut être traité, avec cette méthode-là.
Oui, et en plus, regarder le traitement, comme ce que j'ai fait avec le Covid, n'est-ce pas? C'est évident que, bon, le protocole de Dr Raoul, que vous connaissez très bien, qui a été détruit par le monde, parce que c'était une poussée politique pour essayer de pousser des vaccins et pousser des traitements qui vont sur le marché et oublier les traitements qui sont
Repositionner, comme on les appelle.
repositionnés, mais aussi pas chers et rapides. Et puis vraiment, c'était une façon de traiter au début de la pandémie. Et puis donc, pour moi, je voulais savoir, bon, qu'est-ce qui se passe quand je donne l'hydroxychloroquine aux patients? Qu'est-ce qui se passe quand je donne le Zithromax aux patients? Qu'est-ce qui se passe quand je donne la vitamine C, la vitamine D, le zinc, n'est-ce pas? Alors, j'ai commencé l'étude du microbiome, quoi. Et puis, la première chose que notre labo a découvert, c'est vraiment la présence de COVID dans les selles, mais pas seulement par PCR, pas PCR, mais complètement ce qu'on appelle le whole genome, le génome complet du virus. Alors, depuis le début, on a découvert, bon, la forme du virus, les régions du virus. Et puis, on a pu voir que les régions, quand on développe que le virus, il y avait une mutation, quoi. Des patients qui étaient dans les mêmes familles, ils avaient le même virus, mais les personnes qui étaient dans deux buildings différents avaient un différent virus. Donc, pour moi, je me demandais la question depuis le début, comment on peut donner un vaccin si la mutation du spike elle-même change, n'est-ce pas? Alors c'est ça ce qui m'a poussé à regarder dans les selles. Et quand on a découvert que 100% des selles, les patients qui avaient le Covid dans le nez avaient 100% dans les selles aussi, mais aussi il y avait des patients qui n'avaient pas dans le nez et qui étaient positifs dans les selles. Et je vais vous dire, c'est vraiment fascinant parce que maintenant on est en train de tester tous les échantillons qui viennent dans notre labo. On les teste pour le microbiome et en même temps on fait une autre direction, on va dans une autre direction et tester rien que le Covid. Et puis je peux vous dire, dans les dernières 2 semaines, on a fait à peu près au moins 200 échantillons. Ben, des 200 échantillons, il y avait à peu près deux échantillons, il y avait 4 échantillons qui avaient le Covid dans leur salle, ils savaient même pas. Et après, quand j'ai appelé les patients pour leur dire, bon, est-ce que vous aviez des symptômes? La plupart, 3 des 4 m'ont dit oui, justement, je pensais que j'avais la grippe la semaine avant. Donc, qu'est-ce que ça me dit, moi? Ben, ça me dit que peut-être c'est dans les selles et peut-être la contamination continue parce qu'on regarde pas et on fait pas attention aux selles, n'est-ce pas? Et puis, donc, si on ne fait pas attention aux selles, ça augmente, la pandémie, elle va jamais finir. Parce que vraiment, quand on a dit, bon, on va faire une quarantaine, n'est-ce pas? La quarantaine, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait pour décider? Pourquoi ils ont décidé 5 jours? Bon, tu as le Covid, tu restes 5 jours à la maison, tu es correct. Mais ce n'est pas vrai. Si c'est encore dans les selles, ben, peut-être que la personne, elle contamine encore. On va dans une toilette publique. La personne avait le Covid dans les selles, ben, c'est évident. Je respire les virus, je respire les bactéries. Je vais dans, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de chlorine pour nettoyer la toilette après que la personne est passée, n'est-ce pas? Alors, on a oublié que un des transferts, et pour moi le plus important, c'est vraiment les toilettes. Donc, l'importance de trouver le Covid dans les selles, c'est de quand on traite avec l'hydroxychloroquine et le zithromycine et qu'on découvre que le Covid a disparu, ben, c'est un test, quoi. Alors, quand on a fait des tests et on a vu 5 personnes, on a traité avec le hydroxyzipac, soudainement, le Covid a disparu. Il y a quelque chose qui est arrivé, n'est-ce pas? Alors, C'est ça, c'est pour ça que c'est important de voir les selles, c'est important de diagnostiquer proprement, de trouver le Covid là où il est, parce que c'est le test qu'on fait avec le nose swab, c'est rien qu'un petit morceau du Covid, ça dit pas tout. Ça peut être un morceau qui est d'un virus qui est mort et c'est tout ce qui restait, quoi. Ça veut pas dire que la personne, elle a le Covid, ça veut pas dire que la personne, elle transmet le Covid.
Donc, comme test, finalement, ce serait plus fiable l'étude des selles que le swab PCR traditionnel.
Absolument. Non. Sauf que les agences ne veulent pas en rendre. Il faut passer par le CDC en Amérique pour avoir un approval pour mettre un test des selles pour le Covid. Ce qui est ridicule.
Il me semblait avoir entendu que les Chinois, en Chine, ils avaient pratiqué davantage.
Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi leur méthode, je ne sais pas c'est quoi leur la sensibilité du test, la spécificité du test, je ne sais pas. Mais c'est évident que s'ils sont encore dans la pandémie, il doit y avoir un problème. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux nouvelles de Chine ou de Russie ou de n'importe quoi? Moi, je pense que les nouvelles sont corrompues et puis il y a trop de merde, quoi.
C'est le cas de le dire. Vous parliez donc du diagnostic du Covid, de l'analyse du Covid dans les selles. Il me semble que vous avez aussi mis en évidence un facteur de risque ou de vulnérabilité en analysant les selles des personnes en fonction de la sévérité de leurs symptômes. C'est juste?
Oui, alors c'est ça. C'est quand on a regardé, qu'on a vu que Covid était dans les selles. Moi, la première question que j'avais, c'est si Covid est dans les selles, qu'est-ce que fait le microbiome? Qu'est-ce que font les bactéries quand le virus est dans les selles, n'est-ce pas? Parce que les bactéries sont 20 fois plus grandes que les virus. Donc, si on a des bonnes bactéries et qu'on est fort et qu'on a une immunité assez forte, le virus, bon, il rentre et il passe, quoi. Mais si on est faible et qu'on manque de bactéries et qu'on a un système ou une composition de microbes qui est nue, quoi, eh ben, c'est évident que le virus va rester parce qu'il y a de la place dans le côlon. Alors, il va dire, bon, je vais habiter le côlon, quoi. Et je vais continuer à détruire d'autres bactéries. C'est ça ce que le virus fait, quoi. Alors, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a découvert une bactérie qui s'appelle Bifidobacteria. Et cette bactérie, c'est vraiment la bactérie qui est dans nos produits de probiotiques, n'est-ce pas? C'est la bactérie qui a formé l'industrie de billions de dollars de probiotiques, n'est-ce pas? Maintenant, les probiotiques, c'est évident, c'est pas une bactérie. C'est pas une bactérie qu'on a besoin pour survivre le Covid. Mais pourquoi j'ai fait attention à cette bactérie? C'est parce que cette bactérie, c'est la première bactérie quand les bébés sont nés. Et d'ailleurs, ça a été notre découverte aussi quand on a commencé à regarder le microbiome. On a vu les bébés, on a vu les vieilles personnes, on avait le clinical des patients, le microbiome avant la pandémie. On savait de quoi avait l'air Crohn's, de quoi avait l'air la maladie de Parkinson. C'est pas vraiment énorme, mais au moins 20 patients par maladie. Donc, on avait à peu près une bonne idée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à tester et qu'on a regardé les patients qui avaient la maladie de COVID, qui ont attrapé le Covid et qui étaient vraiment sérieux, comme les gens qui avaient l'oxygène qui est descendu à 60, les gens qui respiraient pas, les gens qui toussaient constamment. On a découvert que ces personnes avaient zéro de bifidobactéria. Ils avaient vraiment aucune bifidobactéria. Comparé aux personnes qui sont mild, asymptomatic, ça veut dire non symptômes, ou les personnes qui étaient dans la même famille. Comme on a vu pendant la pandémie qu'il y avait une personne qui dormait dans le même lit que l'autre personne et l'autre personne n'a pas attrapé. Et les gens se demandaient pourquoi. Ben pourquoi? Parce que la personne qui était dans le même lit, qui n'a pas attrapé, elle avait beaucoup de bifidobacteria. Mais ce n'était pas la seule bactérie. Il y a vraiment, c'est une équation. C'est une forme. C'est une formule, je m'excuse. Les bifidobacteria sont bas, les facilobacterium sont bas, les bacteroides sont hauts et il y a une diversité qui manque. Ça, c'est les sévères COVID. Ensuite, quand on voit le microbiome des personnes qui sont exposées, on va voir que les personnes exposées, ils ont beaucoup de bifidobacteria, ils ont beaucoup de facilobacterium, leur diversité est énorme et leur bacteroides est basse. Donc, c'est ça qu'on a vu. Et pour moi, c'était là, c'est ce que je regardais, n'est-ce pas? Parce que moi, je me teste mes selles à tous les mois. J'ai le labo, je dis, bon, je vais me tester, quoi. Alors, je sais quand pourquoi j'ai survécu, ben, je me garde en balance, quoi. Alors, ma balance, c'était ça, pour battre Covid, m'assurer que j'avais assez de Fastolobacterium, que j'avais assez de Bifidobacterium, que ma diversité était haute, et puis que mon bacteroides était bas, n'est-ce pas? Alors, je sais, j'ai appris, Covid était vraiment une ouverture, c'était comme une porte qui nous a montré notre immunité. Et moi, j'ai beaucoup découvert avec ça, parce que quand j'ai découvert que le Bifidobacterium était important, j'ai commencé à me demander les questions, ben, qu'est-ce qui détruit le Bifidobacterium? Et qu'est-ce qui augmente le bifidobactérien?
Alors, attendez, avant qu'on y arrive. Donc, en fait, la bifidobactérie, c'est pas forcément la seule qui joue un rôle, mais c'est en tout cas une bonne façon d'observer les différences entre les personnes. Et si je vous suis bien, chez les personnes gravement atteintes, il y a peu, pas suffisamment cette bactérie dans leur microbiome. Et chez les personnes qui sont exposées, mais n'attrapent pas la maladie, il y en a souvent beaucoup. Donc, on peut en déduire une relation de cause à effet ou c'est imprudent de le faire? Comment est-ce que vous...
C'est imprudent à date parce qu'il y a aussi... Bon, ça, c'était la population que j'ai regardée. C'était une population assez homogénique. C'était une population américaine pendant des années. C'était une population, bon, blanche. Il n'y avait pas vraiment de diversité de race, n'est-ce pas? Parce que le problème, c'est que quand on rentre dans une population africaine, disons, ben, c'est plus le Bifidobacterium chez les Africains. Si on va dans la population des Chinois, c'est plus le Bifidobacterium. Les Japonais, c'est plus le Bifidobacterium. Il y a un autre microbe. Il y a une autre formule qui les protège. Alors, c'est important quand on, parce que les gens me demandent à chaque fois, ils me disent, bon, donc c'est ça, je vais rien suivre ça. Pas nécessairement parce que on est tous différents. Et si on est tous différents dans nos imprimes de doigts, on est dans nos empreintes de doigts, je parle plus français, dans nos empreintes de doigts, on est différent dans nos empreintes du microbiome du côlon. Et surtout, encore plus que les doigts, parce que le microbiome, il change constamment. On prend un médicament, il va changer. On va au Japon, il va changer. On va manger en Afrique, il va changer. Il devrait pas changer tellement, mais il y a quand même un changement qui se passe. Et puis, en plus, si je prends des, si je mange de la viande qui, et la vache a été donnée, on lui a donné des antibiotiques, ou on lui a donné des hormones, ou on lui a donné des vaccins. Bon, ça va changer mon microbiome en même temps. Donc, très important de voir ça.
Et donc, vous vous êtes demandé ce qui allait influencer le microbiome avec une perte ou une augmentation des bifidobactéries. C'est là que je vous avais interrompu. Donc, je vous laisse
reprendre. Alors c'est ça, c'était comme en tant que recherchiste, ben c'est ça ce que je veux, scientifique, c'est ça ce que je cherchais. Pour moi, c'était bon, qu'est-ce qui détruit le Bifidobacterium, qu'est-ce qui augmente le Bifidobacterium, n'est-ce pas? Alors ce qui est arrivé, c'est que par coïncidence,
par hasard, oui.
Par hasard, c'est ça. Par hasard, j'ai découvert que j'ai pris de la vitamine C un jour. Et je pensais, j'étais au début de la pandémie, on savait pas vraiment l'épidémie, on savait pas vraiment comment traiter, on essayait plusieurs choses. Et puis moi, j'ai toujours cru à la vitamine C. Alors j'ai commencé à prendre la vitamine C et j'étais exposée. Il y avait un patient qui a toussé sur moi, il avait le Covid. Alors j'ai dit, oh, je veux pas l'attraper, je suis occupée, j'ai ma famille, j'ai mon mari, mes parents. Alors j'ai commencé à prendre la vitamine C et puis là, j'ai retesté mes selles. Et puis, soudainement, mon taux de bifidobacteria, il a augmenté par 10 fois. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait, c'est prendre la vitamine C. Moi, ma diète, elle est super stable. Je mange la même chose tous les jours. Donc, vraiment stable, il n'y a pas vraiment de choses. Et puis, mon stress, il est toujours haut, donc ça ne change rien du tout. C'est vraiment quand je descends et que je suis plus stressée que là. Moi, je fonctionne toujours à un niveau de stress assez haut, donc. Donc, mon microbiome, il change pas tellement. Il est stressé, je suis stressée au max et puis je mange la même chose. Donc, la seule chose que j'avais changé, c'était la vitamine C. Alors là, j'étais avec docteur Papoutsi, puis j'ai dit, bah, c'est évident, c'est incroyable. Mon Bifidobacterium, il a augmenté, comment ça se fait? Alors là, j'ai commencé à dire, bon, On va appeler les médecins. J'ai un groupe de médecins que j'appelle tout le temps, puis je dis, j'ai besoin de patients pour mes clinical trials. Et puis, j'ai dit, bon, si vous donnez de la vitamine C à votre patient, je peux vous donner des kits avant et après. Comme ça, on peut tester le microbiome. Et puis, là, soudainement, j'ai fait 10, 20, 24 patients, puis les 24, ils ont augmenté leur bifidobactérie avec la vitamine C. Alors, j'ai commencé à regarder, bon, ce qui a été publié, puis j'ai remarqué qu'il y avait un document dans le temps, qu'il y avait un docteur qui avait analysé la bactérie dans le in vitro, dans une éprouvette, et puis il a donné de la vitamine C dans l'éprouvette, et puis les bactéries ont augmenté dans l'éprouvette. Alors j'ai dit, ben, ça a été fait in vitro, comme on dit, donc c'est pour ça maintenant on le voit clinique. Alors le clinical, c'est que la vitamine C augmente le bifidobactérien. Et c'est ça qui m'a commencé c'est pour ça que j'ai pris, au début, bon, je l'ai fait par gut feeling, quoi. J'ai donné la vitamine C, la vitamine D, parce que la vitamine D, c'est important, il y a beaucoup de documentation dessus. Alors, j'ai dit, bon, ben, je veux voir la vitamine C, je veux voir la vitamine D, je veux voir le zinc bloque les virus, je vais voir. Et puis, ce que j'ai découvert, vraiment, c'est que cette formule de vitamine C, vitamine D, zinc que j'avais créée, vraiment, ça a augmenté parce que ce qui se passe, c'est que la vitamine C et la vitamine D augmentent les bifidobactéria et le zinc augmente les firmicutes et augmente le lactobacillus. Et le lactobacillus, en fonction avec les bifidobactéria, c'est comme une synergie, quoi, une relation qui est assez bonne. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est les découvertes qui ont été faites. Ensuite, il y avait des patients qui avaient l'oxygène qui sont descendus dans les 60, 60, 70. Alors, j'ai traité un patient et puis il allait à l'urgence et il avait un oxygène dans les 70 et il allait à l'hôpital. Et je lui avais donné une prescription pour le ivermectin parce que au même moment, on avait commencé en juillet 2020 à expérimenter avec le ivermectin. Alors, il allait à l'hôpital, il avait toutes les 12 capsules parce que je lui avais donné 12 mg 3 jour 1, 3 et 5, c'était mon protocole avec le doxycycline et le zinc, le vitamin C, D et zinc. Alors je lui dis, ben, écoute, tu as les 12 pilules, ton oxygène est à 73, il était assez gros comme mec. Je lui dis, va à McDonald's, va acheter des frites, mange les frites, ou un hamburger, je me souviens pas parce que je lui ai dit. Je lui dis, mange les frites parce qu'il faut, le ivermectin, il a besoin de graisse pour être absorbé. Alors, j'ai dit, mange des frites, prends les 12 pilules en un choc, n'est-ce pas? Parce que lui, il allait vers l'hôpital et puis dans le temps, les gens qui allaient à l'hôpital, bon, les chances de guérir, c'était vraiment minime. Alors, il arrive à l'hôpital, l'oxygène est à 93%. Et ils l'ont déchargé. Ils lui ont même pas fait confiance. Ils lui ont dit, OK, ce qu'a fait ton médecin, règle celui-là. Alors, moi, j'ai commencé, j'ai dit, bon, ben, si ça a augmenté à 93%, je vais le suivre. Alors là, j'ai dit, bon, ben, je vais le voir, je vais le suivre. Alors, 93, le lendemain, bon, ça redescend, parce que c'est évident, le ivermectin, il marche 24 heures seulement. Alors, j'ai dit, bon, ben, on va vous redonner encore, mais cette fois-ci, il n'était pas si bas, il était à 80, 85. J'ai dit, on va vous redonner 24 mg. Et le lendemain, j'ai dit, bon, on va vous redonner 12 mg. Donc, j'ai fait comme un genre de winning dose, qu'on appelle. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que le patient a survécu. Alors, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec le ivermectin? Pourquoi le ivermectin? Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Si je le comprends pas et si c'est pas simple, c'est pas la peine. Il faut que ce soit simple pour le comprendre. OK? Sinon, on le comprend pas du tout. Alors, j'ai regardé dans l'internet. J'ai fait une recherche sur ivermectin. Parce que jusqu'à ce moment-là, moi, j'étais prise avec l'hydroxychloroquine, le Z-Pak, vitamin C, D et zinc. Et c'est Dr. Borodi vraiment qui m'a dit, non, il faut que tu regardes le ivermectin, doxycycline, vitamin C, D et zinc. Alors, j'ai dit, OK, je vais regarder. Et puis, quand j'ai regardé ça, j'ai regardé ivermectin. Puis là, je regarde, puis je dis, oh my God, c'est la même. Et vraiment, c'était le bon Dieu. J'ai dit, c'est le même groupe de bactéries que le bifidobacteria. Parce que dans le microbiome, il y a des groupes de bactéries. C'est comme c'est comme quand on regarde la planète. Il y a des continents, n'est-ce pas? Donc, il y a des continents qui ont des personnes de différentes races dedans. Donc, ces continents sont différents, mais c'est ça ce qui fait la planète, n'est-ce pas? Dans le microbiome, il y a des continents de bactéries qui sont similaires. Okay, qui ont... Donc, c'était fascinant que le ivermectin, c'était le produit d'une bactérie qui s'appelle Streptomyces, qui est dans le même groupe que le Bifidobacteria.
Ce que alors, vous appelez phylum, hein, c'est ça?
Phylum, P-H-Y-L-U-M, en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français. Je suis sûre que ça doit être la même chose. Anyways, alors ce que j'ai fait, j'ai regardé, puis j'ai dit, bon, bah, peut-être que ce qui se passe, c'est que le produit, la fermentation de cette bactérie, la salive qu'on veut dire, parce que on va penser que ces bactéries relâchent de la salive, quoi, ça c'est leur fermentation, leur produit. Peut-être cette salive, cette fermentation, elle nourrit nos bifidobacteria et ça augmente les bifidobacteria au temps où il y a les cytokines, n'est-ce pas? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé une formulation, une hypothèse, j'ai dit peut-être que le ivermectin augmente les bifidobacteria au moment des cytokines et en même temps, quand les bifidobacteria dans le côlon sont hauts, elles déplacent les cytokines, ce qui laisse de la place aux poumons quand il y a la circulation sanguine qui se passe. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on met des cytokines dans les poumons et dans les intestins, et ça reste, bon, on est bloqué, on ne peut pas respirer. Mais là, soudainement, j'enlève les cytokines avec les bifidobacteria. Là, je laisse la place dans les intestins. Donc, ce qui fait que mes poumons vont circuler les cytokines back aux intestins. Parce que les intestins, c'est les déchets. C'est le, ce qui, on a des bonnes bactéries dans une partie des intestins, mais le reste de l'intestin, c'est vraiment pour enlever le garbage, quoi, ce qui est pas bon. Alors, c'est ça. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, peut-être c'est ça ce qui se passe. Alors, j'ai commencé à incorporer, j'ai changé mon protocole et j'ai commencé à incorporer, le ivermectin pour les patients qui avaient l'oxygène était bas. Et puis, j'ai commencé à changer mon protocole parce que je me disais, bon, il faut que je protège le bifidobacteria. Alors, comment je vais protéger le bifidobacteria? Ben, c'est évident que les personnes âgées qui n'ont pas de bifidobacteria, qui ont une muraille de côlon assez nue, quoi, pas de bactéries, ben, je vais leur donner l'hydroxychloroquine et le Zipaque pour tuer le virus rapidement parce que le problème, c'est que le virus, il va se propager, il va aller partout parce qu'il n'y a pas de bactéries pour combattre le virus, n'est-ce pas? Alors, ma première idée pour les personnes âgées, les personnes qui étaient diabétiques, les obèses, etc., c'était de leur donner l'hydroxychloroquine et avec le Zipaque et en plus la vitamine C, vitamine D pour augmenter le bifidobacteria, le zinc pour bloquer le virus pour ne pas qu'il se propage. Et puis, de là, ajouter le ivermectin. Alors, ajouter le ivermectin, c'était vraiment pour les personnes les plus high risk qu'on appelle, n'est-ce pas? Oui. Les jeunes, j'ai fait un traitement différent pour eux. Pour eux, j'ai dit bon, ben je vais aller plutôt vers le ivermectin, doxycycline, zinc, vitamin C, D et zinc, parce que le doxy, on le donne avec les enfants avec l'acné. Le ivermectin, on les donne aux bébés qui ont la gale ou qui ont les poux. Alors j'ai dit bon ben si je donne aux bébés qui ont la gale et le poux ou les poux, ben c'est évident que le ivermectin il est assez safe pour les gens qui vont mourir, n'est-ce pas, les jeunes qui vont mourir. Alors j'ai commencé à donner ivermectin, doxycycline, vitamine C, D, zinc. Maintenant je suis plus vers dans les vitamines avec les jeunes parce que je me dis faut vraiment préserver leur microbiome parce que c'est vraiment leur force. Alors ce qu'on a découvert, bon, le bifidobacteria, vraiment, ça nous a fait beaucoup de découvertes. On a découvert que le ivermectin augmentait le bifidobacteria. D'ailleurs, c'est ce que j'ai observé dans un ou deux patients au début. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais faire un autre 20 patients. Maintenant, c'est très difficile. C'est ce qui a été étonnant dans cette épidémie. C'est non seulement j'ai découvert le microbiome, mais j'ai découvert la corruption, qui s'est passée. La corruption dans les journaux médicaux qui ne publient pas.
Alors, attendez, parce que j'aimerais en profiter quand même pour préciser que tout ce que vous nous avez dit là, ça correspond aussi, c'est pas juste une docteure Azan qui dit quelque chose. Vous avez publié, sauf erreur, vous avez en tout cas rédigé, publié votre hypothèse sur le mécanisme d'action de l'ivermectine et sur le traitement des patients avec un taux d'oxygène très faible avec l'ivermectine. Vous avez aussi publié. Donc, vous ne faites pas que parler de ce que vous avez fait, vous faites aussi des recherches cliniques et des papiers d'hypothèse, et tout ceci est publié ou soumis en pré-publication.
Et ils ont essayé le traitement hypoxique, ils ont essayé d'enlever le document. Ils ont essayé. Et là, je l'ai combattu et j'ai dit, listen, you want to go to court? I'm there. Parce qu'ils veulent aller en cours, moi je suis prête. Hein. Ça va être un show. En tout cas. Alors ça ils l'ont pas enlevé, ils l'ont gardé. Et d'ailleurs ils ont publié un autre article pour supporter le premier article d'hypoxie. Okay. Ensuite j'ai publié l'hypothèse. Alors pour moi c'est une hypothèse. Si je veux dire le Père Noël il guérit le psoriasis, ok, c'est à moi de le dire, c'est mon hypothèse, ok, c'est une hypothèse, j'ai le droit de dire ce que je veux, ok, n'est-ce pas? Alors, j'ai publié une hypothèse, l'ivermectin augmente le bifidobacteria. Soudainement, j'ai été bloqué à Twitter dans le temps avant Elon Musk. J'étais en prison de Twitter. Ça s'est avéré qu'il y a un de mes patients qui avait donné beaucoup d'argent à Twitter pour commencer la compagnie. Et puis, je lui ai dit, bon, tu me ramènes dans Twitter. Alors, dans 2 heures, j'étais back en Twitter parce que... Alors, il sait qu'il a besoin de moi. En tout cas, alors, j'étais back en Twitter. Mais j'ai dit, bon... C'est une hypothèse, quoi. Ça va rester. Soudainement, on me critique parce que l'hypothèse, j'ai donné des références, que les références ne sont plus, les articles ont été retractés. Ben, l'hypothèse, ça a pris 8 mois à la faire publier. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une hypothèse a pris 8 mois à être publiée? C'est énorme. OK? C'est énorme. Alors, l'hypothèse, ça a pris 8 mois pour être publiée. Et après, ben c'est évident qu'il y a des articles qui ont été retractés. Alors, les articles qui ont été retractés maintenant, ils disent, ben parce que vous avez référé des articles qui ont été retractés, ben votre hypothèse, elle est sous, comment ils appellent ça, sous observation ou critique, quoi. Alors, sous l'article, il y a marqué sous observation ou, je sais même pas comment ils l'ont dit, letter of concern.
Oui.
De concerne sur mon hypothèse. Alors j'ai dit, ben ça montre aux agences d'abord, au FBI, au National Institute of Standard, à tout le monde, ça montre à tous les scientifiques qu'une hypothèse a une lettre de concerne, on ne peut plus faire confiance aux journaux. Les journaux ont perdu l'intégrité. Parce qu'on ne parle pas de, on parle pas d'une recherche ici. C'est pas une recherche, c'est pas une analyse, c'est pas une revue, je fais pas une critique. J'ai le droit de référer ce que je veux.
C'est l'essence de la science de formuler des hypothèses.
C'est une hypothèse. J'ai le droit, c'est la loi que j'ai le droit de faire une hypothèse et j'ai le droit de référer ce que je veux dans cette hypothèse. C'est mon hypothèse. Donc, c'est évident, je vais pas prendre des articles qui contredisent l'ivermectin. Ça donne pas des, ça me dit pas, ça prouve pas mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est une hypothèse. 2 plus 2 égale 4. Ben, prouve que j'ai tort. That's it. Donc, partout, maintenant, je suis dans Twitter, je dis « prove me wrong ». Une lettre de concerne sur Dr. Azan prouve que j'ai tort. That's it.
Vous n'êtes pas la seule à avoir été victime de ce genre de procédé-là. Et c'est vrai que ce qui est spectaculaire dans certains cas, c'est qu'il n'y a même pas d'expression of concern. C'est-à-dire que la revue a dépublié. C'est presque un nouveau terme qu'il faudrait inventer parce que c'est pas la rétractation. C'était publié hier et ce matin, c'est plus publié. C'est pas une rétractation parce qu'il n'y avait pas de défaut. Mais voilà, l'éditeur en chef a décidé de dépublier ce qui était publié. Et...
Voilà. Oui, exactement. C'est ça. Dépublié. Et puis, c'est comme brûler les livres de médecine. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive si je prends un livre, bon, le livre de médecine où il y a le nom de Dr. Fauci dedans. Il y a plein de choses qui ont été contredites dans ce livre. On a changé, la médecine avance, la science avance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brûler le livre? Ben non, je garde le livre, c'est une histoire. La science, c'est une histoire qui va se dire, qui se dit. C'est une histoire qui n'est pas encore découverte. Donc, de dépublier un article qui peut avoir, qui peut aider une autre recherche, c'est vraiment un crime. C'est un crime, et ça, pour moi, c'est le plus grand crime. Et puis, parce que ça enlève l'intégrité de la science. L'intégrité de la science, c'est de prouver et de prouver que c'est faux. De prouver que c'est juste et de prouver que c'est faux. Du moment qu'on enlève l'hypothèse, ben ça donne un narratif, c'est pas un narratif. Alors c'est quoi? C'est une propagande.
Oui.
C'est plus de la science.
Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Ouais.
Oui, non, c'est ça. Mais on est dans les années 37 et 40, où on brûlait les livres. C'est pas normal. Donc, il faut qu'il y ait une justice pour regarder pourquoi les publications ont été dépubliées. Non dépubliées, mais non seulement dépubliées par les médecins qui ont révisé. Vous savez, nous, en tant que médecins, moi, je fais beaucoup de révisions pour les journaux. Et on m'appelle pour faire le peer review qu'on appelle, n'est-ce pas? Bon, je prends mon temps. On me paye pas. C'est gratos. Donc, du moment que moi, j'ai pris mon temps et je suis gratuit, et j'ai révisé un article et je dis oui, l'article il est bon, mais publiez-le. Et c'est indépendant, je suis pas payé pour, personne ne me paye. Cet article doit rester. Du moment que the publisher enlève l'article sans la consultation des médecins. J'ai un article maintenant, l'article que j'ai publié d'ailleurs, que j'ai trouvé le Covid dans les selles. Eh ben, figurez-vous que ils essaient de l'enlever. C'est le premier cas au monde qui a découvert le Covid intègre dans les selles et qui a forcé notre gouvernement de regarder dans les septiques, n'est-ce pas, dans les comment on dit septiques en français?
Non, bah dans les.
Les égouts.
Dans les égouts, oui.
Les égouts, c'est ça. Alors, s'ils regardent dans les égouts, ça veut dire que l'analyse des selles, elle est valable. Ça veut dire que mon étude leur a donné quelque chose pour aller voir dans les égouts.
Mais quelle est la raison qui est avancée pour...
C'est ridicule. On devait avoir 250 patients. Je n'ai pas attendu les 250 patients. D'abord, 250 patients. Cette étude seulement, ça, pour 10, 12 patients, ça m'a coûté à peu près 120, 150 000 dollars. Rien que pour faire l'étude. Non, un petit peu plus même. Et pour la publier, etc. Donc, 250 patients, c'est une étude de 2 millions de dollars au moins, d'analyse, de regarder, de faire l'analyse des selles, de regarder. Donc, on a les selles, on a les analyses. Il faut continuer, mais on a besoin de fonds, on a besoin de continuer notre recherche. Alors, quand j'ai publié ça, je l'ai publié, bon, 12 patients. J'ai dit, c'est le début, il faut le publier, quoi. Alors, ils se demandent pourquoi j'ai pas publié les 250 patients. Alors, ça, c'est un. De deux, c'était quoi l'autre critique? Pourquoi j'ai mis des contrôles? Pourquoi il y avait deux personnes qui avaient pas le Covid et je les ai testées? Ben, il faut un contrôle, quoi. Je peux pas marquer l'étude et montrer, bon, tout le monde a eu le Covid. Ben, d'où je sais que ton test n'est pas faux si tu montres pas que ceux qui n'ont pas le Covid sont négatifs, quoi. Alors, c'est ridicule, leur raisonnement. Et d'ailleurs, ce document a pris 7 mois avant d'être publié. Alors, il y avait beaucoup de back and forth avec les médecins, et puis il y avait beaucoup de critiques, et on l'a rechangé, réadapté. Ça nous a pris 7 mois avant de publier cet article. On a fait les découvertes en juillet 2020. En fait, on a fait les découvertes en mars, avril, juin, 2020. Avril-mai 2020. Et puis juillet, on avait plus de documentation, on a commencé à publier, écrire les articles. Et c'est pas facile d'écrire ces articles, au fait. Surtout dans une pandémie, en train de traiter les patients, sans grants, rien du tout, c'est pas facile. Alors, on l'a publié en juillet, on l'a donné au journal en juillet, il a été publié en janvier.
Vous avez mentionné les problèmes que vous avez rencontrés avec les éditeurs de journaux, avec Twitter aussi. Est-ce que d'autres niveaux, est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues dans votre recherche et dans votre traitement des patients?
Oui, absolument. Quand j'ai commencé l'hydroxychloroquine et que Trump avait parlé de l'hydroxychloroquine, soudainement, on a des appels au téléphone. Oh, vous êtes des criminels, vous tuez les patients avec l'hydroxychloroquine. Et moi, bon, une oreille, ça sort de l'autre, parce que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, parce que sinon, on n'avance pas la science. Hein. Si on commence à écouter tous les bobards et tous les. Et regarder toutes les choses qui nous bloquent, on ne va pas avancer la science. Alors moi, je continue, hein, je n'ai pas le temps. Et puis d'ailleurs, continue. Le Covid, pour moi, bon, c'est fini, j'ai solvé ce problème. J'ai trouvé la formule, j'ai survécu, j'ai perdu personne dans mon. J'ai traité des milliers de patients, personne n'est mort. Ben, j'ai traité les plus graves. C'est pour ça que j'ai publié le document, d'ailleurs, pour montrer. Même les patients qui avaient de l'oxygène qui étaient dans les 60, 63, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez dans le temps avec Twitter, je montrais l'oxygène.
Oui,
Vous savez,
oui, oui.
confiance, ça prend en tant que médecin, ça prend une confiance en fer pour dire au patient, pouvez-vous prendre une photo de votre oxygène et être sûr que l'oxygène va augmenter? Et de reprendre la photo plus tard. Et c'est le même doigt. Hein. Vous avez vu le doigt avec Marié. Il avait 63%. Il a augmenté à 92%. Il est parfait maintenant, ce gars. Donc, il y a plusieurs patients que j'ai traités comme ça. Bon, c'est évident que ça prend du temps de traiter ces patients, de voir l'oxygène augmenter, de suivre ces patients. Mais finalement, imaginez si on l'avait fait dans les hôpitaux. Combien de personnes auraient survécu? C'était
Et
énorme. Donc,
j'encourage vraiment les personnes qui nous écouteront à aller lire la publication qui est disponible sur l'amélioration du taux d'oxygénation des personnes qui sont traitées avec votre protocole et avec l'ivermectine. C'est vraiment un article très intéressant, donc voilà, allez le lire.
c'est un article aussi qui montre que c'est pas vraiment une drogue, c'est pas vraiment rien que l'ivermectin. Il y a des patients que j'avais donné l'hydroxychloroquine, le Z-Pak, et j'ai ajouté le ivermectin. Il y a des patients que j'ai donné l'ivermectin, doxycycline, zinc, ça avait marché. Donc c'est vraiment l'art de la médecine. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé cette épidémie, je pensais bon ben je vais avoir un produit quoi, comme ce qu'on a fait avec H. pylori. Et on a donné triple therapy, les trois antibiotiques
Oui.
pour le H. pylori. J'ai dit, bon, mais ça va être la même chose, quoi. Mais ce que j'ai découvert, hein, c'est que c'était plus que ces trois. Il y avait vraiment une formule spécifique par patient, par maladie, qui m'a aidé à faire qu'aujourd'hui, je peux dire, j'ai perdu personne. Alors, c'est ça, je pensais. C'est vraiment la découverte du microbiome. Maintenant, je vais vous dire, l'interférence dans la science et la recherche, surtout dans la recherche du microbiome, par des gens qui ont un intérêt fiscal, monétaire, c'est très dangereux parce que ces personnes qui ont l'intérêt monétaire, ils vont être des patients un jour. Ils vont avoir la maladie de Parkinson's, ils vont avoir la maladie de Alzheimer's, leurs enfants vont avoir l'autisme. Et puis ces personnes vont se dire, oh, pourquoi j'ai interféré? Maintenant, j'aurais pu. Et moi, je le dis en anglais tout le temps, coulda, shoulda, woulda. J'aurais pu, dans le passé, changer le passé et investir dans la recherche et ne pas interférer avec la recherche. Ça m'aurait aidé aujourd'hui. Pourquoi moi, je fais cette recherche? Parce que je me dis, dans 20 ans, peut-être, je vais avoir la maladie d'Alzheimer's ou le Parkinson's ou peut-être un cancer ou n'importe quoi. Je veux pas être sur mon lit en tant que malade et me dire, oh, j'aurais pu faire la recherche. Non, faut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps pour regarder le microbiome.
Docteur Hazan, vous avez parlé de l'autisme et de l'Alzheimer et il faut absolument, je serais vraiment, j'aurais le cœur brisé si on n'évoquait pas vos travaux aussi dans ces domaines-là, dans cette interview, puisqu'on a parlé du Covid et qu'il fallait en parler beaucoup parce que c'est un sujet quand même très important. Pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je fais ces interviews. Mais alors, parlez-moi aussi de ce que vous avez découvert dans ces autres domaines en lien avec le microbiome parce que c'est extrêmement intéressant.
Oui, l'Alzheimer, c'est vraiment ce qui a commencé mon intérêt dans le microbiome. Parce que mon ami Colleen Kelly, qui avait découvert que les cheveux poussent chez des gens avec alopecia areata, moi, j'avais découvert qu'il y avait un patient qui avait l'Alzheimer. Et quand je lui ai donné la transplantation des selles de sa femme, il a commencé à se rappeler la date d'anniversaire de sa fille. Et elle, elle était choquée parce qu'elle se disait, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi il... Et il avait ce qu'on appelle un mini mental status, le statut mental. Mm-hmm. Je pense qu'il était 21.
Donc, c'est un test, ça mesure la gravité, en fait, de la progression de la maladie, c'est ça?
Ah, de Alzheimer's. Et il est monté de 21 à 25, 26. Et quand il est monté à 25, 26, son médecin aussi a découvert qu'il était 25, 26. Donc, on avait deux différents tests qui ont été faits par deux différents médecins qui montraient qu'il y avait une augmentation. Et pourquoi ce patient? Ce patient, il est rentré dans une étude pour moi, parce que je fais les clinical trials, il est rentré dans une étude de Alzheimer's. Et quand j'ai fait l'étude d'Alzheimer's, sur lui, j'ai découvert que son statut mental était 21. Alors, quand il a attrapé la maladie de C. diff, mm-hmm. il a fallu le traiter. J'ai pris les selles de sa femme, qui était vraiment intelligente, astute, très claire. Et puis, j'ai remarqué que la transplantation avait augmenté son taux mental, quoi. De 21 à 25, 26. Et après, il est monté 6 mois plus tard à 29. Alors, j'ai publié l'article. J'ai voulu publier l'article. Ça m'a pris 7 ans pour publier l'article.
Pardon?
Personne ne croyait. Et j'ai pas abandonné. J'ai dit non, cet article, il faut qu'il sorte. Et j'ai pas abandonné. Et finalement, j'ai envoyé aux peer reviewers, je leur ai envoyé le diagramme, parce que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, ils font un carré avec un triangle superposé, comme ça, quoi. Et puis, ils sont pas capables de le dessiner, comme ils vont faire ça, et puis ils vont faire ça, ok? Mais ce monsieur, il est parti de ça, quoi, aux deux triangles et carrés superposés exactement, et c'était ça, son écriture. Alors, j'ai envoyé ça au journal. J'ai dit voilà la preuve que mon monsieur, et en plus j'ai envoyé une vidéo de la femme qui parlait. Alors ça a été accepté, et puis c'était le premier patient qui a été traité avec les selles dans la maladie d'Alzheimer, ce qui nous fait maintenant voir que c'est, d'ailleurs on a vu, c'est pas l'Alzheimer, c'est pas le amyloïde, c'est pas nécessairement oui. le cerveau, il faut penser aux intestins. Alors, pour moi, bon, je suis jamais le scientifique qui va dire « Oh, c'est tous les intestins ». Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont le Alzheimer's, que c'est les intestins, la première chose. Il y a d'autres personnes que c'est la connexion entre les intestins et le cerveau. Il y a d'autres personnes, c'est le cerveau. Il y a un problème. Il y a des problèmes, quoi. Et vraiment, l'imbalance, c'est intéressant parce que la plupart de ces personnes qui ont le Alzheimer's, on découvre, bon, ben, ils ont une infection à la manche, soit, ou une infection aux dents, ou… Donc, ça se passe, et ça va aux intestins aussi, ça se passe au cerveau. Ils ont des infections aux intestins, ils ont une infection urinaire qui cause le changement, ils ont un manque de nutrition qui diminue leurs bonnes bactéries. Donc, il y a tellement avec la maladie d'Alzheimer qu'il faut voir, pas rien que penser que c'est le cerveau. Et je pense que le problème qu'on a en médecine, de toutes les façons, c'est qu'on pense toujours que c'est rien une pilule, oui. une maladie pour tout le monde. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de, les systèmes sont juxtaposés, quoi.
Je sais pas si vous connaissez les travaux du docteur Dale Bredesen qui s'est penché sur la maladie d'Alzheimer et qui lui décrit vraiment que c'est une maladie qui peut entrer par différents points d'entrée, différents trous, et que son travail à lui, c'est de boucher tous les trous par lesquels elle pourrait entrer ou continuer à se développer avec, en effet, vraiment un aspect multifactoriel. Et je crois qu'il inclut la santé des intestins et de la digestion.
Absolument. Donc, ça, c'est la maladie d'Alzheimer. La maladie d'autisme, bon, c'est intéressant parce que quand j'ai découvert que Alzheimer, il y avait un improvement avec les transplantations des selles, je suis partie voir Dr. Feingold, qui a écrit le livre sur anaerobic infections. Il travaillait au VA à Los Angeles. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je vois? Quelles bactéries je vois quand je vois le Alzheimer's qui augmente? Et puis, j'avais pas le labo dans ce temps-là. Alors, il me dit, tu regardes, tu vois le microbiome en fonction. Alors, il me dit, il faut que tu ouvres ton propre labo. Et quand tu vas ouvrir ton labo, tu vas voir cette bactérie. Il m'a donné son manuscrit qu'il avait écrit. Et il m'a dit, garde ça dans un coffre-fort. Et quand tu vas ouvrir le labo, tu vas découvrir cette bactérie que j'ai découverte. Et puis, lui, il était fasciné avec la maladie d'Alzheimer. Et il était aussi fasciné. C'est le premier, d'ailleurs, qui a commencé à parler sur l'autisme, qui a donné le vin coma essaim aux personnes d'autisme, qui a dit que l'autisme, c'était, on pouvait traiter avec des sels. C'était le premier, vraiment. Alors, quand il a, et lui, il travaillait avec Dr. Baroli. Et c'est là que ma journée, ma
Ouais,
trajectoire a commencé, parce que il est mort pendant le Woolsey Fire à Malibu en 2018. Et puis la famille m'a appelé et ils m'ont dit, bon, on vous donne tous les manuscrits de mon père, tous les livres, toutes ses peintures. Il avait des peintures assez de Sanofi Pasteur. Il avait beaucoup de cadres avec des slogans qui étaient vraiment chouettes. Alors ils m'ont donné ça. Alors j'ai dit, bon. J'ai arrêté ce que ma maison était en train de brûler et le backyard. Alors j'ai dit, bon, je vais m'occuper de chercher les livres, c'était plus important pour moi. Et puis, je suis scientifique à mort. Alors j'ai pris un camion, j'ai pris tous les livres, je les ai amenés dans mon bureau et j'ai dit, bon, moi, ça va être la chambre de Dr. Feingold, n'est-ce pas? Et puis, soudainement, pendant le feu ou après le feu, pendant que je m'occupais avec ma maison, mes enfants, etc., j'ai dit, bon, je pense que c'est le temps de s'occuper du microbiome. Et puis, j'ai embauché Dr. Papouzi, qui m'a créé la plateforme, quoi. Et puis, là, j'ai commencé une discussion avec Dr. Brody. Tous les jours, on parlait. Et puis, il m'a dit en janvier, c'était 2019, il m'a dit, tu vas voir, tu vas être occupé avec le Parkinson, avec l'autisme. Alors, j'ai dit, moi, l'autisme, je suis gastro-adulte, je suis pas les enfants, je fais pas les enfants, voyons. Alors, le docteur Adams à Arizona, l'université d'Arizona, avait publié un document où il a traité 18 patients avec les transplantations des selles et 50% des patients n'ont plus le diagnostic de l'autisme. En fait, ils n'ont plus de problèmes neurologiques. Okay? Donc, l'implantation a été vraiment bien faite. Okay? Alors, il m'a dit, tu vas voir, tu vas être occupé. Alors là, ce jour, une semaine plus tard, j'ai un patient qui arrive. Et puis, le petit garçon, bon, il avait 17 ans dans le temps, il se cassait les dents devant moi, il se tapait la tête, il était agressif à mort. Et les parents, ils prenaient chacun un tour pour régler l'enfant. Alors, il y avait un parent qui traitait l'enfant. Et puis, il y avait l'autre parent, et qui, pendant la nuit, et puis l'autre parent dormait. Et puis, il se changeait les shifts, quoi. Alors, moi, j'ai pris pitié pour cet enfant. Et j'ai dit, bon, il faut que je fasse la transplantation. Ça marche. Dr. Burrow, il va m'aider. Alors là, j'ai commencé à écrire un protocole. J'ai écrit le protocole. J'ai écrit le consent. Il faut un consent. Alors, j'ai écrit le consent, j'ai écrit le protocole. C'est pas facile d'écrire des protocoles pour qu'on va envoyer au FDA. C'est des pages et des pages et c'est beaucoup de recherches. Alors, je l'ai écrit, je l'ai envoyé au FDA. Moi, je pensais que ça allait être 24 heures parce que j'avais fait une transplantation pour une femme qui mourait de cancer. J'avais demandé au FDA de me donner un approuvement et puis en 24 heures, ils m'ont donné l'approuvement. Alors, moi, j'ai dit, bon, ça va être la même chose. Je vais commencer à le faire pour tous les patients. FDA, 24 heures, on fait la transplantation. Et puis, ça n'a pas marché. C'était pas 24 heures. Et puis, il y avait beaucoup de questions, back and forth. Après, le Covid est arrivé, donc on était comme bloqués. Et pendant le Covid, pendant que je traitais, pendant que j'ai écrit mes protocoles pour l'hydroxychloroquine et pour le ivermectin, et puis j'avais trois protocoles avec le FDA. Alors, j'étais occupée avec les protocoles avec le FDA, et puis j'avais une personne qui était en charge de ma régulation et regulatory, qu'on appelle. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je vais pas laisser tomber ce protocole d'autisme, je vais continuer à battre. Et puis, finalement, quand on a su que Covid était dans les selles, on a pu tester la fille, la sœur, pour s'assurer qu'on donnait pas le Covid. C'était pour ça, d'ailleurs, que pour moi, j'étais tellement bloquée avec trouver Covid dans les selles, parce que je me disais dans ma tête, si je donne des selles avec le Covid dans les transplantations, c'est mortel. OK? C'est mortel. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à analyser les selles. La fille, elle n'avait pas le Covid dans les selles. On n'est pas reparti back and forth avec le FDA. Et finalement, le FDA nous a approuvé. Alors, en juillet 21, 2021, on a fait la transplantation. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est que dans notre protocole, le protocole, c'était des il fallait continuer avec des enémas. Mais le garçon, il avait 19 ans à ce point-là. Et c'est très difficile de tenir un garçon de 19 ans qui est 6 pieds de taille.
Pour des lavements.
Pour des lavements. Alors, on a dit non, il faut continuer à le faire dans le centre d'endoscopie. Il faut continuer à lui donner une petite anesthésie. Alors, on est reparti au FDA. Alors, ils nous ont mis en suspense. Alors, pendant les 6 mois, moi, je pouvais rien faire sur le gars. Je lui avais donné une transplantation et j'attendais le FDA qui me redonne le feu vert, quoi. Alors, soudainement, je vois la famille, elle me dit, ben, il est capable de dire 2 mots, 3 mots. Il dort la nuit. Il est plus agressif. En fait, les parents, ils dorment les deux. Ils n'ont pas besoin de le tenir. Alors, pour moi, c'était comme un changement radical pour donner aux parents au moins de la paix. Et puis, il avait une fougère aux orteils qui avait disparu complètement. Alors, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on a regardé les selles, c'est là qu'on a découvert que la transplantation, elle avait prise parce qu'il y avait un match. Il matchait sa sœur. Et non seulement il matchait sa sœur, mais il continuait à matcher sa sœur. Et la bactérie qu'on a découvert, qui était énorme chez lui, il avait des protéobactérias, du lactobacillus animalis qui était augmenté. Quand on a découvert ça, on a découvert que ça avait disparu avec la transplantation. Et peut-être c'était ça la bactérie qui causait ces agressivités. Et avoir beaucoup de protéobactéries, c'est pas tellement bon. Alors c'est ça, c'était. Alors maintenant on a suivi, ça fait 1 an et demi presque, oui, 1 an et demi presque, oui. Et il a été à la graduation avec une fille cette fin de semaine. Il était au prom qu'on appelle, et c'était bien. On le voit sourire et des photos, c'est super. Alors ça donne vraiment. Ça me donne des frissons quand je parle de ce cas, parce que c'est vraiment un cas qui, si on n'avait pas fait ça, parce que tout le monde disait non, faut jamais donner les selles des sœurs ou dans la famille, parce que peut-être qu'ils ont les mêmes microbes. Mmh. C'est vrai quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on voit, mais quand on a une technologie comme la mienne qui me donne par précision toutes les bactéries, tous les virus. Et maintenant, on est en train de voir, non seulement on regarde ce qu'on connaît, mais maintenant on est en train de nommer des bactéries qui sont similaires dans les personnes de Parkinson, dans les personnes de autisme. Donc, il va y avoir des nouvelles bactéries qu'on va découvrir qu'on ne savait pas, parce qu'il y a des billions de bactéries. Alors, le Bifidobacterium, c'est une bactérie simple, mais ce n'est pas la seule. Le Fusobacterium, il y a vraiment des bactéries qui sont résilientes, qui sont... ce qui crée une personne, quoi, qui crée, qu'est-ce qui me fait que je sois comme un ouragan dans la recherche? Là, on m'emmerde et puis je vais à tout. Je sais pas ce qui se passe dans mon système. C'est comme il y a comme de la fumée qui sort de ma tête. Et puis là, j'y vais et je fais, ah, là, j'attaque. Alors, c'est ça, c'est comme ça, moi, je suis. Mais il y a une bactérie qui doit me faire ça, n'est-ce pas? Parce que... Je suis pas né que peut-être je suis né comme ça, je sais pas moi, mais il doit y avoir une bactérie qui me fait fonctionner comme ça, qui dit comment est-ce que je peux faire bouger Sabine. Mon mari me dit toujours, il me dit si on veut que Sabine fasse n'importe quoi, faut lui donner un challenge. Alors c'est ça.
Mais là c'est quand même extraordinaire, un jeune homme autiste qui après une transplantation fécale d'une part attrape, donc ça prend, ça veut dire que son microbiome devient similaire à celui de sa sœur, et en plus psychologiquement il fait des progrès spectaculaires et ça tient, les progrès tiennent sur la durée et le microbiome tient sur la durée. On parle quand même avec c'est pour ça que je voulais absolument parler de ça, on parle quand même avec l'autisme et avec l'Alzheimer de problèmes insolubles pour la médecine, qui pose de gros problèmes à la médecine.
Et je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que la médecine veut une guérison bang bang. Ok, on donne la pilule, il faut guérir tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui a causé une maladie, regardez la maladie de Parkinson. Ça a pris 20 ans pour que ça devienne un problème neurologique. Ça va pas prendre un mois pour guérir. ça va prendre du temps pour que le microbiome qu'il y ait un rééstablissement, quoi. Que ça se
c'est comme rééquilibre.
Une balance. Il y ait une balance. Et cette balance, ben, il faut découvrir d'abord si on fait les bonnes choses pour aller vers la balance. C'est évident que si la personne, bon, je lui donne, même les transplantations, j'aurais pu lui donner des antibiotiques. Comme j'aurais pu dire, bon, il a dit deux mots, mais ça marche pas. OK? Les parents, s'ils m'avaient pas écouté, ils auraient pu donner la transplantation et dire, OK, ben, je vais lui donner, il parle rien que deux mots. Maintenant, je vais aller dans un plan B. Et je lui donne des antibiotiques. Ben là, ils vont détruire ce que j'ai fait.
Oui.
Maintenant, il est prêt à se guérir. C'est comme, je vais vous dire, les transplantations, c'est comme un jardin. C'est simple, OK? Le jardin, il a des mauvaises herbes, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui pousse quand on a des mauvaises herbes. Alors, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut tourner la terre et il faut planter. Il faut s'assurer que l'oxygène, la vitamine D, le soleil aille sur le jardin. Et puis petit à petit, le jardin, il commence à pousser. C'est comme ça. Alors, les plantes, elles ne vont pas pousser en une journée. Ça va prendre un an. C'est ça.
Et est-ce qu'il y a une limite? Je sais qu'on a probablement dépassé le temps qui était prévu.
Je vais te voir parce qu'il me paye. Je vais vous dire au revoir parce que j'ai
une appel. Je ne veux pas vous laisser partir avant de vous remercier. C'était un immense plaisir.